Chers amis, la suite de notre étude sur l'amour inconditionnel de Jésus-Christ, c'est le premier contact avec Jésus. Jésus n'entre pas dans le gabarit du prophète qu'il refuse notoirement. Il y a ici, dit-il, plus que Jonas, note Saint Matthieu chapitre 12, verset 41. Permets-moi de t'expliquer pourquoi et de façon résumée. Le prophète n'était pas n'importe qui non plus. Il était beaucoup plus qu'un colporteur de nouvelles et qu'un simple messager. Ce qu'il annonçait ne lui était pas totalement extérieur, sinon il n'aurait pas été appelé dans une vision comme Ésaïe chapitre 6 te montrera, ainsi que Jérémie chapitre 1. Il n'y a pas besoin d'une vocation pour faire le facteur. Si Yahvé lui réservait une expérience spirituelle avant de le propulser sur les chemins, c'est que le message à proclamer retentirait sur sa vie en général d'une façon douloureuse et il partagerait avec son Dieu la souffrance venant de l'aveuglement des hommes, des ingratitudes d'Israël, le refus caractérisé, infidélité moqueuse et dénégration violente. Il en ferait un peu son affaire propre et il épouserait d'indignation divine. Oui, on peut bien le dire. À la limite, comme Osée, il vivrait dans son ménage la même trahison que Yahvé connaîtrait dans l'alliance avec Israël. Il saurait d'expérience ce que c'est que d'aimer une femme qui se prostitue, d'en souffrir d'une façon lancinante et pourtant de lui pardonner. Tu peux lire tout cela dans Osée au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Pourtant, la coïncidence entre Dieu et lui ne serait pas totale. Sa vie lui servirait à porter le message sans pour autant s'identifier avec lui complètement. Ses affaires à lui seraient comme des paraboles pour comprendre les affaires de Dieu, mais elles ne seraient pas les affaires de Dieu quand même pas. Sinon, les gens intrigués par son mystère lui aurait demandé « Mais, qui donc es-tu ?» Or, il se contentait de lui dire « De quel droit fais-tu ce métier ? Où prends-tu les choses que tu nous dis ? » C'est-à-dire, « Qui t'envoie vraiment ? » Et « Qu'en sais-tu ? Qu'est-ce que tu sais de tout cela ?» Or, Jésus, lui, a osé demander à ses apôtres, « Dites donc, qui dit-on que je suis ?» Parce que le message coïncidait totalement avec son être de Verbe incarné et de Fils livré. Dieu ne nous aime que s'il nous donne son propre enfant. Il nous le dit en nous le donnant. Sa parole est identique à la personne envoyée. Dieu se dit comme il se donne. Du même coup, cette parole est définitive et unique. Tout est donné, donc tout est dit, et il n'y a plus rien à dire. Si tu réclames encore des visions après Jésus-Christ, tu forces le Verbe à s'incarner une seconde fois et à mourir une seconde fois sur la croix, comme si cela n'avait pas suffi. Je vais y revenir un peu plus loin. Donc, le prophète a tellement conscience de recevoir son message d'un autre qu'il fait précéder ses annonces les plus solennelles d'une garantie stéréotypée. Oracle de Yahvé. Telle est sa lettre de créance. En même temps qu'il appelle ses contemporains à la plus grande attention, il met une distance entre sa pauvre personne et celle du Dieu qui l'envoie. Certes, il fait plus que de dire un communiqué qui, comme aux informations télévisées, tomberait du téléscripteur d'une façon toute mécanique. Il est plus que le porte-parole de Sarkozy ou de Obama. On a beaucoup discuté pour savoir si le prophète était un mystique et, en général, on a prétendu que non. On a dit que le mystique possédait avec son Dieu une familiarité permanente et progressive qui allait en augmentant alors que le prophète recevait des communications intermittentes et plus fortes que lui, que faisait de lui un organe, mais pas un saint. Un organe qui est saisi par l'Esprit Saint de Dieu. Ça change tout. L'homme n'est jamais un pur instrument, surtout pas pour son Créateur. Le prophète reçoit donc son message dans une prière qui l'unit à son Dieu et qui lui fait partager la passion de son Dieu. Il n'est pas simplement un remarquable acteur dans la peau de son personnage. Sa conviction ne vient pas de son talent, même s'il en a. Il ne joue pas la comédie. Si tout a commencé pour lui par une vision spirituelle, donc par une vocation, tout continue de se passer au même niveau. Il n'y a pas retombée dans le seul art dramatique. Voilà qui est donc considérable. Et pourtant, il prend bien soin de se réclamer d'un autre pour qu'il n'y ait pas de méprise. Or Jésus, nous l'avons vu, ne dit jamais « Oracle de Yahvé ». Il se situe donc bien au-dessus du simple prophète. Entre ce qu'il dit et ce que dit Dieu son Père, il n'y a pas d'écart. Non qu'il prenne la place du Père, il s'en défend énergiquement, il souligne même une certaine dépendance puisque il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. C'est écrit dans Saint Jean chapitre 5, verset 19, et il ne dit que ce qu'il entend dire, selon Saint Jean chapitre 8, verset 26. Mais cette dépendance reste à l'intérieur d'une unité. Note Saint Jean chapitre 10, verset 30. C'est celle du Fils blotti contre le Saint paternel. Son enseignement et son exégèse, c'est cela. Tu peux noter Saint Jean, chapitre 1, verset 18. Donc, il reproduit en langue humaine les battements d'un cœur sans aucun intermédiaire. Aussi Jésus parle-t-il de la volonté divine comme d'une réalité qui lui est familière au plus haut point et qui n'a qu'un secret pour lui, et il en parle en son nom propre. Moi, je vous dis, et ceci sans aucun avertissement préalable. Voilà de quoi prier l'Évangile. Cette clé de lecture est indispensable. C'est la clé d'un trésor. Le prophète biblique n'est pas un devin dont la seule préoccupation serait de lire et de dire l'avenir, moyennant pourboire, pour répondre à une demande humaine ou à une anxiété humaine. D'abord, ses contemporains ne lui demandent rien, ils essaient même de le faire taire à moins qu'il ne veuille proférer des paroles agréables qui sont plaisantes et flatteuses. Lui-même d'ailleurs ne fonctionne pas de son plein gré comme un homme qui tiendrait boutique. Il serait bien resté chez lui tranquillement. Il lui arrive même, au moment de cafard, de regretter le jour où sa mère lui infligea la vie, comme dit Chateaubriand, de sa naissance. Et puis, son rôle est plus complexe. Il consiste à dénoncer autant qu'à annoncer, à rappeler le passé, voire à intercéder. Et toute l'histoire du salut entre dans ces oracles. Le passé, vraie lune de miel d'un amour, le présent, moment de la conversion, le futur, objet de la promesse d'un Dieu fidèle. Mais enfin, le prophète biblique doit aussi envisager l'avenir proche comme une sombre menace, l'avenir lointain comme une restauration radieuse. Jésus fait de même, notamment quand il annonce la ruine de Jérusalem. Mais quelle différence! Quand il prédit une catastrophe, le prophète se contente de le dire. Il peut déplorer la chose ou intercéder auprès de Dieu pour qu'elle n'arrive pas. Mais Dieu peut rejeter sa prière et de toute façon, l'événement ne dépend pas de lui. C'est pourquoi dans l'incertitude, il présente le repentir divin comme une réelle possibilité. Peut-être, qui sait, s'il revenait et s'il regrettait. Or Jésus, lui, n'est plus dans la même position. Le destin de Jérusalem se joue face à sa personne. Plus question de délai ni de menace au conditionnel. C'est pour cette génération, nous dit saint Matthieu, chapitre 28, 23 et verset 36. Au futur indéterminé, il substitue la date absolument irrévocable. À l'oracle de Dieu, il substitue sa propre parole. Tout ici porte la trace d'une autorité souveraine. Il arrive enfin au prophète jadis de mimer son enseignement. Pour annoncer l'exil à Babylone et forcer l'attention et de ses contemporains qui étaient incrédules et railleurs, souviens-toi. Eh bien, il recourait à de petites mises en scène, à tout un cinéma pédagogique, briser une cruche en public, par exemple, pour simuler par avance la destruction de Jérusalem. Jérémie, chapitre 19, versets 10 à 11. Mimer le siège de la ville en installant des retranchements autour d'une brique posée à terre, au milieu d'une place. Tu peux voir cela dans Ézéchiel, chapitre 4, verset 1 à 3. Comme des enfants feraient par exemple avec du sable sur une plage à Deauville, se déguiser en émigrant avec un baluchon sur l'épaule et sortir par un trou du rempart pour indiquer un sauve-qui-peut, selon Ézéchiel chapitre 12. Parfois même, et le jeu est encore plus cocasse, ainsi manger par exemple une galette de n'importe quel ingrédient, cuit sur des excréments, pour prédire une famine affreuse où l'on mangera n'importe quoi. Ézéchiel chapitre 4 verset 9 à 17, ainsi que Jérémie chapitre 27. Il se promène dans les rues avec un joug sur la nuque pour annoncer la victoire du roi de Babylone, qu'Israël se rende s'il veut éviter l'extermination. Bref, le spectateur n'a aucune excuse s'il s'obstine à ne pas comprendre et à ne pas prendre la chose au sérieux. En faisant tous ces gestes, le prophète les explique. Ceci, c'est tel événement ou tel aspect de l'événement. Dans l'Évangile, il y a un moment où Jésus semble avoir recouru au même procédé symbolique. Par exemple, la Sainte Cène, quand il prend du pain et dit « Ceci est en mémoire de mon corps ». Mais alors, nous ne sommes plus dans le, on peut dire, dans le mime. Pas du tout, nous sommes dans la réalité, nous sommes vraiment dans la réalité. Et ce que fait Jésus ce soir-là n'est pas simplement l'annonce d'un simple événement futur, c'est l'événement lui-même au présent. Et par son geste et ses paroles, le Christ déclenche réellement une passion qui sans cela n'aurait pas pu commencer. Jusqu'à présent, une autre issue que la mort est encore possible, car rien n'est joué. Avec la Sainte Cène, tout est mis en branle pour le véritable acteur du drame. « Ma vie, dit-il, nul ne me la prend, car c'est moi qui la donne. » Saint Jean chapitre 10 verset 18. Et c'est bien elle que j'ai donnée, pas un faux semblant. Mon corps et mon sang, cela veut dire moi-même, ma propre personne, telle que vous la connaissez, telle que je n'ai cessé de la donner, jusqu'au bout du don suprême. Ici, le geste, l'événement et la personne coïncident. La prophétie est donc réalisée, et ceci par quelqu'un qui n'est donc plus un simple prophète, puisqu'il accomplit les choses pour de vrai. Seul le propre Fils de Dieu pourrait déclencher la fin une fois pour toutes. Et grâce à lui, nous connaissons le sérieux de Dieu, son réalisme total. Cette nouveauté a beau avoir été annoncée, elle n'en reste pas moins totalement déconcertante. Entre le portrait robot de quelqu'un et ce quelqu'un, il y a un abîme. La mise en présence nous arrachera toujours un haut d'émerveillement. Pour toutes ces raisons, Jésus a une manière bien à lui d'opérer des miracles. Avant lui, les prophètes étaient capables d'accomplir eux aussi des actions étonnantes. Ils pouvaient même faire revenir à la vie des hommes déjà morts, ce qui est le prodige numéro 1, selon 1 Rois chapitre 17, versets 17 à 24, ainsi que 2 Rois chapitre 4, versets 18 à 37. Mais vois combien la façon de faire est différente. Par exemple, pour ressusciter le fils de la veuve, Élie supplie, il crie, « Yahvé, mon Dieu, je t'en prie, fais revenir en lui l'âme de cet enfant. » 1 Rois chapitre 17, verset 21. Mais Jésus, lui, ne recourt à personne d'autre. Il s'adresse avec autorité à l'enfant morte de Jaïr. « Fillette, je te le dis, lève-toi. » C'est écrit dans Marc, chapitre 5, verset 41. Ainsi qu'au fils unique de la veuve de Nain, il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Luc, chapitre 7, verset 14. De même, il dit au lépreux, « Je le veux, sois purifié. » Marc, chapitre 1, verset 41. Au paralysé, il dit, « Je te l'ordonne, lève-toi. » Marc, chapitre 2, verset 11. Au vent de la mer, il dit simplement, « Silence, tais-toi. » Marc, chapitre 4, verset 19. À l'esprit impur, il dit, « Sors de cet homme. » Marc, chapitre 5, verset 8. Ou encore, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. » Marc, chapitre 9, verset 25. Il agit donc en son propre nom et sans se réclamer de personne, attitude unique. Après lui, les apôtres auront bien conscience de leur dépendance vis-à-vis de lui. L'apôtre Pierre et Jean ont dit aux boiteux du temple, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3, verset 6. L'apôtre Pierre guérit le paralysé de Lydda en utilisant ces paroles, « Est né Jésus-Christ te guérit. » Acte 9, verset 34. Jésus tranche donc du tout au tout sur ceux qui le précèdent comme sur ceux qui le suivent. Ce n'est pas seulement la manière qui diffère, mais aussi la signification. Jésus s'en explique d'ailleurs lui-même. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est arrivé pour vous. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Le miracle évangélique ne dit jamais la puissance sans dire la présence. Il est un fait, en effet, qui a une valeur et une signification, car il émane d'une personne, non pas comme un influx magnétique, mais comme une action voulue qui répond à la foi d'un homme. Il n'est donc pas un simple fonctionnement, mais une rencontre qui se termine parfois par une vocation. Bref, le miracle révèle l'avènement du royaume de Dieu qui est Jésus lui-même. Il ne le fait pas simplement comme un coup de clairon. Il nous renseigne sur les sentiments de Dieu, sur ses intentions et sur son projet. Oui, c'est le message que le Seigneur fait porter aux Jean-Baptiste dans sa prison. Vous vous rappelez de cela? Et ceci pour apaiser sa perplexité. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez, car les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont guéris et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 6. Jésus fait donc une réponse en acte. Il renvoie à un visible ce qui est lisible. Les gens de nos jours se montrent sceptiques quant aux prodiges relatés dans l'Évangile et ce doute vient de loin dans l'histoire, butant moins sur le fait que sur le non-sens de ce fait. Il y voit une prestigitation indigne du Christ, une démonstration cherchant à subjuguer des badauds de foire. Or, rien de tel dans la manière de faire de Jésus, qui est d'une étonnante discrétion et qui s'oppose à toute publicité tapageuse. Rien en lui du charlatan qui annonce ses trucs à grand fracas avant de faire la quête et de demander de l'argent. Il voit aussi dans ce recours au prodige un encouragement à la crédulité, un coup de pouce pour faire avaler à l'esprit des choses incompréhensibles comme si un professeur de géométrie, incapable de démontrer un théorème, faisait une pirouette devant le tableau noir pour qu'on croie à ses capacités de faire le pitre. Donc, quelque chose d'extérieur à la vérité. Non, mon cher ami, ne sépare jamais les merveilles accomplies par Jésus de la merveille que représente Jésus lui-même. Ne te contente pas de conclure à une force, mais remonte à la source et aperçois le visage, devine le cœur et murmure son saint nom. Ne réagis pas en curieux, mais accueille une révélation. Le miracle n'est pas le moyen économique de croire sans avoir besoin de la foi. Il suppose la foi. Selon Matthieu chapitre 13 verset 58 ainsi que Luc chapitre 16 verset 30. En même temps qu'il augmente la foi. Tu sais que le peuple juif attendait ardemment un Messie, comme chez les moines esséniens de Qumran. Cet être exceptionnel, cet homme providentiel, les gens se le représentaient de diverses manières selon leur spiritualité. Pour les uns, un roi. Pour d'autres, un prêtre. Dans les deux cas, un consacré imprégné d'une huile sainte. Car Messie en hébreu, traduit par Christ en grec, signifie être oint par l'onction. Abania, c'est ce personnage que l'apôtre Pierre reconnaît en Jésus. Et Jésus se satisfait pour le moment de cette approximation qui part d'un bon mouvement et exprime le maximum de ce qu'un juif pouvait dire sans avoir trop d'ennuis avec le haut clergé. Certes, il fallait une singulière audace pour identifier le Messie dans un pauvre homme sans gloire, qui n'était pas descendu du ciel, mais venait d'un hameau crotté. Mais si, à le soutenir, on risquait l'excommunication, on n'encourait pas pour autant l'accusation majeure d'impiété avec la peine capitale qu'elle entraînait, c'est-à-dire la lapidation. Il y avait simplement erreur d'appréciation, mais pas idolâtrie, manque de goût peut-être, mais pas blasphème. Dans l'évangile de Marc surtout, Jésus interdit aux siens, voire aux démons, de lui donner une identité précise avant le jour de la résurrection. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Il demande aussi qu'on ne vulgarise pas les miracles qu'il accomplit. Tu peux noter l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 12, et le chapitre 5, verset 43, etc. N'imagine surtout pas que le Seigneur déconseille l'apostolat. Il redoute seulement qu'on se méprenne à son sujet tant qu'il n'est pas passé par la croix. Il craint un rush populaire qui n'aurait rien à voir avec la foi véritable. Après Pâques, l'Église l'appellera sans hésiter Seigneur et Christ, acte chapitre 2 verset 36, parce que alors il n'y aura plus aucun danger de confusion, surtout en dehors du monde juif. Pourtant, Jésus a été accusé de blasphémer en se donnant comme l'égal de Dieu, et les cailloux ont failli pleuvoir sur son corps. Tu peux voir cela dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 31 à 33. Le moment le plus tragique a été son interrogatoire par Caïphe, quand le grand prêtre a solennellement déchiré son vêtement sacerdotal en signe de scandale. Ça, tu peux aussi noter dans Matthieu chapitre 26, versets 63 à 66. Et c'est à cette heure qu'a été décidée la peine de mort. Pourquoi ? Lis bien le texte. Caïphe adjure Jésus de dire s'il est le Messie, oui ou non. En répondant par l'affirmative, le Seigneur aurait déclenché un beau tapage. Mais il aggrave son cas en disant « Vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant sur la nuée du ciel. » Voilà ce qui cause l'indignation horrifiée de Caïphe et entraîne la condamnation à la peine capitale. La réaction du grand prêtre nous est ici précieuse. Elle nous donne le sens exact de cette expression curieuse. Fils de l'homme, qui dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 13, désigne un personnage de rang divin. En s'adjugeant audacieusement ce titre, celui sans doute dans lequel ils se reconnaissent le moins mal, Jésus commet le blasphème décisif. C'est le vrai grief retenu contre lui devant Pilate, selon l'évangile de Jean chapitre 19, verset 7. Car, curieusement, à l'époque des évangiles, « Fils de l'homme » était une appellation plus majestueuse, plus transcendante que « Fils de Dieu », expression qui se disait des rois, selon Jean, chapitre 10, versets 34 et 35. De nos jours, bien sûr, il en va tout autrement. C'est fils de Dieu qui possède le sens fort et se dit de Jésus seul. L'expression juive fils de l'homme a servi un temps dans l'Église primitive. Étienne l'emploie en mourant, Actes chapitre 7 versets 55 et 56, mais elle a disparu depuis longtemps du vocabulaire chrétien, puisque l'apôtre Paul lui-même ne l'utilise plus dans les milieux païens où il porte l'évangile, on ne l'aurait pas compris, ou bien on se serait mépris à son sujet en lui donnant un sens faible. Pour lui, le Seigneur est le Fils en personne, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 28, c'est le Fils unique et nous, nous sommes des enfants adoptifs, selon Éphésiens 1 chapitre 5. Pauvreté de nos mots humains, adoptif, n'évoque pas une simple décision juridique, entraînant par exemple un changement de nom. Il s'agit d'une véritable greffe qui nous irrigue de la vie divine. Nous verrons cela un peu plus loin, mon cher ami. Pour le moment, l'important ici, c'est que tu remarques bien qui Jésus prétend être par son attitude et par son langage, quels que soient les mots qu'il utilise. Et n'oublie jamais que Jésus est une personne insurpassable. Pour toutes ces raisons, Jésus est la révélation définitive après laquelle il n'y en a plus à attendre d'autres. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu en ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils, resplendissement de sa gloire et effigie de sa substance, Hébreux chapitre 1 verset 1 à 3. Celui que tu suis n'est pas un messager parmi d'autres, prenant sa place à égale hauteur avec les autres au musée des grands hommes, éperdu dans une suite de salons qui va s'allonger indéfiniment à mesure que se déroule l'histoire. Certes, le Christ ne convainc pas les génies humains de stupidité, et ce n'est pas de sa part une simple politesse, encore moins une pure concession. Il n'empêche que pour le chrétien, le mot « révélation » possède un sens unique. D'abord, ce mot se met au singulier, au pluriel, il s'agit d'autre chose, d'expériences privées qui n'entrent pas dans l'acte de foi même si la hiérarchie les déclare plausibles. Alors, ne précède pas le jugement de l'Église qui entend vérifier si la personne est fiable, si ses dires sont justes et si le message reçu est conforme à la foi. Même si l'enquête est positive, ne te précipite pas et ne décentre pas ta vie chrétienne de fondement. En effet, nul n'en peut poser que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Tu peux noter 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Ne te mets pas en porte-à-faux et en déséquilibre. Ensuite, nous croyons, tout de même avec nos frères juifs, que Dieu se manifeste dans l'histoire humaine au grand jour par le surgissement d'un peuple et pas seulement au creux de la conscience individuelle comme le voulait Rousseau. Dieu se montre en agissant. Il se dit en se donnant et il parle par des événements. Il fait signe par une communauté vivante. Une telle chose n'existe pas dans l'islam, pour qui Allah se révèle à l'âme religieuse sous la forme d'une dictée. Enfin, l'Église voit en Jésus non un prophète parmi les autres, ni même le dernier des prophètes comme c'est Mohammed, comme l'est donc Mohammed pour le musulman, mais le fils hors série. Il est le fils hors série qui met fin d'une façon décisive au tâtonnement antérieur. Personne ne sera jamais plus que lui et plus que lui au courant du mystère divin, car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut bien le révéler. Tu peux noter Saint Matthieu chapitre 11, verset 27. Chers amis et chères amies, croire en Jésus, ce n'est pas picorer ça et là des bribes de vérité. Ce n'est pas se confectionner un bouquet de pensées sublimes. Ce n'est pas, comme chez le confiseur, demander un assortiment de chocolat ou de bonbons. Vous m'en mettrez 100 grammes de chaque. Croire en Jésus-Christ, c'est rencontrer quelqu'un et non pas des idées. C'est vivre un événement et non faire son marché intellectuel. Tu retrouveras en Jésus des vérités qui existent ailleurs. Il ne s'en cache d'ailleurs pas, puisque la règle d'or de sa morale traîne la plupart des sagesses antiques. Mais c'est au Fils, en personne, que tu t'attaches, pas à un florilège. Et le Fils te communique aussi des vérités qui prennent le monde à rebousse-poil, les béatitudes par exemple, car il est lui-même cette vérité qui semble dure à avaler, cette pierre que les bâtisseurs s'obstinent à rejeter de la construction et qui est pourtant la pierre d'angle, selon Matthieu chapitre 21, verset 42. Cela, il faut bien le dire, plus que jamais, à une époque où les hommes devenus indifférents et tièdes, ils appellent la conviction du fanatisme, se contentent d'un vague tourisme culturel à travers les religions et les systèmes, à une époque où les chrétiens eux-mêmes, lassés d'y réfléchir, oui, ils en ont marre de réfléchir, ils sont fatigués de se battre et ils sont honteux d'être différents, baissant les bras devant la révélation et font un mélange de toutes les doctrines, parfois du moins avec une pieuse mayonnaise sur cette Macédoine. Il faudrait la perspective du martyr pour les réveiller, mais peut-on la souhaiter sans imprudence et sans présomption? En tout cas, dis-toi bien que laisser à tes seules forces, tu es un être terriblement abstrait, quoi que tu dises. Dieu seul est concret, engagé et engageant. Tu lui parles d'idées et il te parle d'options. Tu prends ton temps et il te dit que la fin est enclenchée. Tu butines dans les corolles comme l'abeille et il te présente le calice incomparable. Tu balances entre des théories et il t'offre un salut pour t'éviter une issue fatale. Tu fais nonchalamment du shopping pour ton usage personnel et il te brandit la croix avec sa pancarte polyglotte. Ami, interroge-toi sur ta recherche elle-même, sinon tu ne trouveras personne car tu te contentes de chercher des choses à la place de chercher celui qui t'offre la vie éternelle. Tout cela est bien beau, mais il faut le faire, ou plutôt le laisser faire. Je suis sûr que dans ton cœur, il y en a, en ce moment même, des remous, des sentiments mélangés, un brin de scepticisme, pas mal d'admiration, et une bonne pause de peur. Oh, je crois qu'il y a une dose de peur, ou au moins un peu d'appréhension, soyons sincères. Nous devons regarder soigneusement ce qui se passe en nous, et quand nous réfléchissons un peu en profondeur, pas seulement superficiellement, et dans quel état nous met telle pensée et telle perspective. Aussi, faisons-le ensemble. Pour cesser d'avoir peur, pas d'autre solution que de prendre le taureau par les cornes, comme on dit. C'est courageux en même temps et efficace. Ne laisse jamais pourrir en toi une situation avec un fourre-tout de questions mises aux oubliettes, un petit fumier de malpropreté non traité, un contentieux de litige non réglé avec Dieu, avec l'Église et avec toi, et des affaires en attente qui n'en finissent pas de moisir dans le dossier, sans parler des choses décrétées ennuyeuses ou impossibles à régler, que tu as froissées énergiquement pour les jeter en fin de tout dans la corbeille à papier. Car nous devons, mon cher ami, essayer de comprendre qu'il n'y a que deux engagements concernant la personne elle-même, l'acte de foi et le mariage. Bien sûr, il y a une différence entre les deux, parce que le mariage est limité par la mort d'un des deux époux. La foi, absolument pas, c'est là la différence. Mais ils sont quand même du même type. En tout cas, ils ont leur sort lié. Nous voyons actuellement qu'ils subissent la même détérioration, par exemple, que la fidélité des époux est aussi, elle est aussi menacée que celle de la mentalité actuelle. Et c'est normal, puisque le mariage entre baptisés est un sacrement, c'est-à-dire le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes. Réfléchis bien. Quand Dieu a voulu trouver l'image la meilleure de sa fidélité pour nous, le groupe humain qu'il a choisi pour cela, ce n'est ni la nation, ni la patrie, ni le syndicat, ni la paroisse, ni la compagnie de Jésus, mais c'est le couple. Ne dis pas que l'Église, que l'Assemblée méprise le mariage. Si elle le méprisait, elle l'abandonnerait à son triste sort. Oui, on peut le dire. Elle s'en fait, au contraire, une haute idée, justement parce qu'elle est exigeante à son égard et elle est réciproquement certaine que cela a une grande importance. C'est la société, cher ami, cette société bourgeoise, marchande, qui veut le rabaisser à un contrat d'intérêt et de plaisir, donc à une association momentanée, semblable à tous les autres. On comprend que dans un pareil climat, l'enfant soit de trop, car par son apparition, il empêche la marche tranquille de ce système. Il est le résidu qui s'oppose à une joyeuse rupture, la tierce personne qui interdit au contrat de fonctionner à deux. On peut, en divorçant, partager les choses que nous avons acquises. Mais comment couper un enfant en deux morceaux ? On peut partager le fruit mort du travail, mais pas le fruit vivant de l'amour. Alors, on se le repasse toutes les semaines, ou parfois tous les 15 jours, pour son propre malheur. Vois-tu, le don de soi, pas seulement de sa générosité, mais de sa personne, est forcément illimité. Car je ne suis pas une chose pouvant se découper en tranches chronologiques. Je ne peux pas dire d'un amour que j'en prends pour 6 mois, comme d'un engagement au service militaire. De la foi au Christ, pas davantage. Et quand je refuse le don illimité, je transforme l'autre en objet. Je dis à Dieu, je te servirai tant que je trouverai en toi mon plaisir, ou que je n'aurai rien découvert de mieux en faisant le marché. Je dis à une femme, je me mets en ménage avec toi sans t'épouser, rien que pour essayer l'objet charnel et psychologique que tu représentes avant tout pour tester l'échantillon sous bénéfice d'inventaire. Et je garde le droit, toi aussi, de renvoyer le produit au fournisseur pour en acquérir un autre, le cas échéant. En attendant, nous nous offrons tous, oui, tous, simplement les avantages en nature que comporte la vie commune, y compris le jeu qui consiste à faire l'amour, mais pas l'amour promis. Ça, ça change tout. Ce n'est peut-être pas forcément calculé de cette façon cynique, mais, vois-tu, cela revient au même. Se marier supposerait un risque, celui de donner sa foi, comme on disait jadis. On préfère tenter des expériences qui portent sur des aspects limités. Alors on ne saura jamais ce qu'est le don de soi. Car pour cela, il faudrait risquer le don. Et c'est ce qu'on refuse de faire. On espère simplement que les choses se calment et se normalisent. On restera ensemble par habitude, j'allais dire par lassitude, comme des meubles qui seraient devenus pénibles ou aventureux de déplacer. Plus encore qu'une collection de vérités à admettre que nous devons croire que la foi chrétienne et la confiance absolue faite au Christ, et nous devons croire surtout en Christ. À qui d'autre irions-nous, disait l'apôtre Pierre, après le lâchage de ce fameux Judas, alors même que Jésus, pour l'éprouver, lui disait à lui et aux 10 autres, et ceci d'une manière que tu peux trouver cruelle, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Tu peux voir cela dans Saint Jean, chapitre 6, verset 67. Mon cher ami, s'engager véritablement, c'est signer, et signer pour ainsi dire à Dieu, une traite en blanc. Ah oui, et sans savoir ce qu'il y inscrira plus tard, ou plutôt en sachant seulement qu'il y inscrira toujours davantage. Le signataire ne précise donc pas le montant de sa donation. Il laisse à son Seigneur le soin de compléter le papier comme il le voudra, certain seulement que la somme ira en augmentant. Il est convaincu également que le tireur sera l'approvisionneur, c'est-à-dire que Jésus versera sur son compte la somme qu'il lui réclamera. Avant de terminer, cher ami et cher amieux, j'aimerais te dire, il est un bon moyen de vérifier si ma foi est de cette trempe, c'est d'en faire comme saint Paul, non pas la preuve par neuf, mais la preuve par l'absurde. À supposer, par impossible, que le Christ ne soit pas ressuscité, qui perdrais-je? Qu'est-ce que je pourrais y perdre? Ce que je lui ai donné, peut-être, non? Mais que lui ai-je vraiment donné? Tout est là. Faisons le premier une telle hypothèse. L'apôtre n'a pas de mal à conclure « Dans ce cas, je serai le plus malheureux des hommes, un homme fini, de surcroît un naïf qui s'est laissé avoir et un faussaire en bonne nouvelle qui en a induit d'autres en erreur, selon 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Et moi ? Oui, et toi ? Serais-je, seras-tu vraiment anéanti et vidé ? Ou bien ne perdrais-je qu'une charmante illusion de jeunesse, un flirt sans aucun sérieux, quelques heures de culte ou d'évangélisation, ou quelques frissons de soirée de prière ? Le vrai croyant est donc quelqu'un qui met tous ses œufs dans le même panier, et ceci au risque de faire, en cas de choc, une omelette générale. Il n'a pas de caisse noire pour subvenir à une faillite, pas de double comptabilité pour retomber sur ses pieds en cas de banqueroute. Donc, c'est le tout que nous devons risquer par amour pour le Seigneur. Et, cher ami, j'aimerais, avant de terminer par la prière, te dire quelques mots d'encouragement, pourquoi pas, et cela nous aidera pour ensemble prier dans le nom de Jésus-Christ. Donc, sache que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Sois attentif, toujours plus attentif à sa présence. Son amour t'enveloppe. Ouvre-toi tout entier à sa joie et sois certain d'être réellement gardé et conduit, bien que tu ne vis pas tout à fait de la vie du royaume des cieux, aussi longtemps que tu n'acceptes pas de l'être comme de petits enfants. Avec le Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ, vois-tu, la vie se simplifie, comme est simple la vie des enfants. Et les âmes simples sont, et nous le savons, des grandes âmes, car dans la simplicité, il y a carrément la majesté. Prions maintenant ensemble. Ô Dieu, notre Seigneur et Roi, selon ta sagesse, tu nous as destinés ici-bas au labeur et à l'effort, et pour que nos âmes soient ainsi excitées, endurcies, fortifiées, et que nous bâtissions dans ce monde temporaire une cité de justice et d'amour. Préserve-nous d'oublier dans nos pensées et nos prières ceux qu'un travail malsain, écrasant ou mal payé frustre injustement du droit de tout homme au salut. Tu as ainsi établi l'ordre des choses que nous devrions, sans gain inique, assurer la sécurité de notre existence matérielle. Rends-nous contents de peu, sobres et charitables. Apprends-nous à savoir nous lier pour délier les autres, à savoir renoncer pour pouvoir donner. Affranchis-nous de la fallacieuse puissance de la richesse et de l'esclavage de Mammon. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Rends-nous intègres, loyaux, fidèles au devoir, quel que soit notre état. Fais-nous songer que nous te servons, toi et non pas nous-mêmes, qu'à travers les besoins dépourvus d'attrait, dépourvus de grandeur, de poésie, ou même parfois d'utilité apparente, nous conservions le sentiment de notre vocation, d'un appel venant d'en haut, la joie de servir et d'obéir, la consolation d'être à notre poste et de tenir bon, et que notre tâche, si humble soit-elle, nous apparaisse comme un élément de cette grande œuvre universelle où nous sommes co-ouvriers avec toi et par lequel s'accomplit ta volonté sainte pour l'amour de ton royaume. Amen. Et cher ami, chère amie, souviens-toi et ne l'oublie jamais que Dieu t'aime. Il t'aime d'un très grand amour. Et nous également, nous t'aimons de tout notre cœur. Sois donc béni et merci pour l'intérêt que tu portes à ces études, à ces messages. Et à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.